Nous lisons ensemble un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ésaïe et au chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui. Écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle que dans ma bienveillance et ma fidélité, j'ai promise à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander aux peuples. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et à cause de moi, moi l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël, une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur la graine qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès, et au lieu des orties, croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel, et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Je vous propose une deuxième lecture, et puis après une troisième, beaucoup plus brève. Ces lectures, nous les lisons dans l'Évangile selon Jean, dans le Nouveau Testament. La première se trouve au chapitre 4. Dans ce texte, qui raconte la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Nous lisons simplement quelques versets de cet entretien. Nous lisons au verset 9. Jésus vient de demander à cette femme de lui donner à boire. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment ?» Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine. Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau à boire, de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Et un peu plus loin, au chapitre 7 du même évangile selon Jean, nous lisons quelques versets à partir du 37. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus se tint dans le temple et il se mit à proclamer à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour, pour nous, de l'année, le dernier jour pour le récit que nous venons de lire dans l'Évangile selon Jean, le dernier jour de la fête, Jésus se tient debout dans le temple et prononce des paroles solennelles. Le dernier jour, doublement symbolique, ce jour-là, et peut-être pour nous aussi, 31 décembre et dimanche, je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous sur ce texte. Ce texte important qui évoque cette double réalité. Le jour de la fête et le dernier des jours de fête. Parole et attitude de Jésus qui donne une solennité particulière à ce qu'il déclare. Tous les jours ne sont pas égaux, nous le savons. C'était vrai depuis les origines, c'est toujours vrai. Il y a des jours de travail, il y a des jours de repos, il y a des jours de fête, il y a des jours où on n'a pas du tout envie de faire la fête. Tous les jours ne sont pas égaux. Le Seigneur avait prévu depuis les origines, au moins, le jour du sabbat, un des 7 jours de la semaine pour à la fois s'arrêter et penser tout particulièrement à Dieu. Et il y avait aussi des jours de fête particulièrement repérés dans toute l'histoire qui nous est racontée dans l'Ancien Testament. Je sais bien que dans le Nouveau Testament, il est dit que c'était l'ombre des choses à venir, qu'il n'y a plus de jours de fête, ce qui a fait dire à certains que dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup mieux parce que c'est tous les jours la fête. Je veux bien, mais voilà, dans un sens oui, mais pas dans tous les sens. On ne fait pas la fête tous les jours. C'était quand même important dans le cycle de la vie du peuple d'Israël que de repérer et de célébrer les jours de fête qui étaient prévus. Je ne vais pas développer ce thème qui est intéressant et qui a de l'importance. Je voudrais juste rappeler à cet égard qu'il y avait trois grandes époques de fête, une au printemps, l'autre à l'été et la troisième à l'automne. Elles étaient en grande partie rattachées à la fois à l'histoire, puisque la première de ces fêtes, c'était la fête de Pâques, qui célébrait la délivrance du peuple qui avait été esclave en Égypte, et en même temps, qui célébrait le début de la production agricole. Et puis il y avait la Pentecôte, c'est après qu'on l'a appelée Pentecôte, parce que ça venait 50 jours plus tard, après la Pâque, c'était la fête des pains sans levain, c'était la fête des semaines, et c'était la fête de la première gerbe, c'était les premiers fruits de la terre qui étaient récoltés. Et puis il y avait aussi une fête qui intervenait à la fin de l'ensemble des récoltes, de la moisson, de la vendange, et qui se terminait aussi par le grand jour des expiations, c'est-à-dire par le fait de prendre conscience que dans le parcours de l'année, il y avait eu pour le peuple des temps où il s'était éloigné de Dieu, où il avait besoin de recevoir de Dieu le pardon. Ainsi donc, dans cette série de fêtes prévues, il y avait la place pour les deux grands mouvements du cœur de celui qui reconnaît en Dieu son Dieu, la reconnaissance et la repentance. Le merci pour tous les bienfaits que le Seigneur accorde et la conscience de l'imperfection, du péché, du mal commis, consciemment ou même inconsciemment, mais pour lequel on a besoin de s'approcher de Dieu dans la repentance, le grand jour des expiations, la fête des tabernacles. Sens des fêtes, reconnaissance et repentance. Le dernier jour de la fête, le grand jour, le plus solennel. Quand on termine les fêtes, en général, le dernier jour, on ramasse un petit peu ce qui reste et on s'apprête à rentrer chez soi. Mais dans le cycle des fêtes d'Israël, le dernier jour de la fête était le plus solennel parce que c'était celui dans lequel on rassemblait tous les éléments de ce qu'on avait pu partager pour se présenter devant Dieu avec les mains pleines de reconnaissance. Le dernier jour, le grand jour de la fête, tu n'oublieras pas, disait le Seigneur dans l'Ancien Testament, de célébrer le Seigneur et d'avoir une sainte convocation pour venir devant lui. Et ce jour-là, c'était aussi le jour pour l'écoute solennelle de la parole que le Seigneur adressait à son peuple. Et ici, dans cette parole de Jésus, nous avons cette même réalité. Le grand jour de la fête, dans cette solennité particulière, Jésus se lève dans le temple et il proclame à voix haute, d'une voix forte, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et il ajoute une promesse à cet appel. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous avons ici un écho de ce que nous avons lu ensemble dans le livre du prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez à la source des eaux. Il y a donc dans cet appel de Jésus une référence au prophète, bien sûr, mais à toute cette histoire dans laquelle Dieu se révèle comme celui qui donne à la fois la nourriture qui nourrit vraiment et l'eau qui désaltère vraiment. Et du début jusqu'à la fin de l'Écriture, nous trouvons cette référence. D'abord, cet appel à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avons-nous soif? Je me suis dit, il me sera assez facile de raccorder ce que j'ai prévu de partager avec vous ce matin, avec ce qu'a dit Onésime. Je vous propose donc un nouveau sujet pour nous arrêter, savoir si nous avons soif. Avons-nous soif? Mais à cette question, il faut en ajouter une autre, qui va avec. C'est soif de quoi? Jésus reprend en écho l'appel de Dieu qui a retenti dans le prophète Ésaïe, à ceux qui ont soif. Au début du sermon sur la montagne, Jésus, dans ce qu'on appelle les béatitudes, a proclamé une des béatitudes qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et nous avons lu ensemble aussi ce passage du dialogue entre Jésus et la femme de Samarie, qui dit à la femme rencontrée au bord du puits, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Quiconque boit de l'eau de ce puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Avoir soif ou pas? On peut ne pas ressentir la soif. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ait pas besoin d'eau. C'est bien connu dans les maisons de retraite, quand il fait très chaud, il faut donner à boire aux personnes âgées parce qu'elles ressentent moins le besoin d'eau que les autres. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne ressentent pas le besoin de boire qu'elles ne sont pas déshydratées. On m'a dit récemment que je ne buvais pas assez, et donc depuis qu'on m'a fait cette exhortation, je m'applique à boire davantage, de l'eau, hein, rassurez-vous. Je précise ça parce qu'on est en période de fête et on ne boit pas que de l'eau. D'ailleurs, j'ai remarqué que même dans notre texte, il n'est pas question que de l'eau. Vous avez vu dans la suite d'Ésaïe, il y a aussi du vin et du lait. Avons-nous soif? Avons-nous besoin d'eau? Donc nous venons de constater qu'il peut y avoir une différence entre le besoin ressenti et le vrai besoin. Il y a une différence entre le besoin et l'envie aussi. De quoi avons-nous soif? Une question pour aujourd'hui. Dans notre société, pour nos contemporains et nos concitoyens, quels sont les vrais besoins? Et je pense qu'une parole comme celle que nous avons lue dans Ésaïe doit avoir pour nous un retentissement très actuel. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Je suis un peu un fan d'informations, d'actualités, j'écoute souvent la radio, mais je dois reconnaître que dans le flot de tout ce qui nous est déversé sur les antennes, à la radio, à la télé aussi, que de choses creuses, inutiles, alors je ne parle pas de celles qui sont franchement mauvaises, il y en a beaucoup, mais même celles qui n'ont vraiment aucun sens, mais vraiment aucun sens. Et de se dire que beaucoup de gens se nourrissent de ça, on me dira, tu t'en nourris aussi, hein, mais bon, Ça m'arrive quand même, quand ça devient trop, de fermer la radio. Je ne passe pas ma journée à écouter la radio quand même. Soif de quoi? Quels sont les vrais besoins? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Je vous propose que nous laissions retentir cette question dans nos cœurs. Il y a dans le livre du prophète Amos une parole importante aussi. Et voici ce que dit le Seigneur. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la disette dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Quelle faim et quelle soif. Dans le prophète Jérémie, nous lisons cet autre texte important. Dieu dit à propos de son peuple à un moment donné, « Cieux, soyez étonnés, terre, sois étonnée, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Pourquoi faire? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont laissé Dieu. Ils ont laissé la parole de Dieu, ils ont laissé la parole de vie, et ils ont creusé de leurs propres mains des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors nous voulons redire ce matin, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Tout au long de sa marche, pendant les 40 années dans le désert, le peuple a reçu de Dieu la nourriture et l'eau pour le désaltérer. Et lorsqu'il se trouvait dans les passages désertiques, dans les passages de terre aride, Dieu a pourvu, vous savez comment, l'eau du rocher. Dans le livre du Deutéronome, il y a le rappel après les 40 ans. Dieu t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, dans des lieux arides et sans eau, et il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Je pense que nous pouvons témoigner, pour notre part, que lorsque nous nous sommes trouvés dans des passages de sécheresse, dans des moments d'épreuve qui nous ont intérieurement desséché. Même à ces moments-là, le Seigneur a su trouver le moyen de faire jaillir de l'eau vive du rocher le plus dur. C'est le témoignage du peuple, et c'est le nôtre. Et en regardant les endroits où il y avait ces références à l'eau vive, à ceux qui étaient appelés à venir se désaltérer auprès de Dieu, j'ai simplement constaté que cette expression, on l'a trouvée jusque dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, dans les tout derniers versets du Nouveau Testament et de l'Écriture donc, voici ce que dit Dieu. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est fait. » Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui a soif vienne. Nous sommes appelés à la fin de l'Écriture à dire, viens Seigneur Jésus, et nous sommes nous-mêmes appelés à venir vers lui. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Et nous sommes donc nous-mêmes, tous les jours, constamment, au bénéfice de cette eau qui désaltère vraiment, de cette parole de Dieu qui est notre eau vive, qui désaltère. Et nous sommes appelés à relayer cet appel, puisque nous avons aussi la promesse. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le Seigneur parlait déjà de l'Esprit qui viendrait sur les siens et qui, au travers des siens, serait comme une eau qui désaltère pour ceux qui les voient vivre et qui les entendent parler. Et nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière du monde, eau qui désaltère, parole de vie. Entendre l'appel de Jésus, venir à lui, se désaltérer de l'eau vive, c'est écouter sa parole, la comprendre, la saisir, l'assimiler, et faire de cette eau qui donne la vie le moyen d'être pour les autres une source de bénédiction. Et je terminerai ce que je voulais partager avec vous ce matin par cet autre aspect. Après l'appel, après le don de la vie, la promesse d'être pour les autres une source de vie. Pouvons-nous, frères et sœurs, chers amis, avoir vocation à la fois plus haute et plus belle que d'être sûr d'être nous-mêmes désaltérés par l'eau vive et d'être à notre tour source de vie pour les autres? Pouvons-nous avoir une vocation plus belle que celle-là? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Double bienfait, double bénéfice pour celui qui vient à Jésus et saisit ce que Jésus donne par la foi. Il reçoit l'eau de la vie et se renouvelle en se désaltérant de cette eau de la vie. Et il devient à son tour source de vie pour les autres. Les deux expressions les plus belles de la vie reçue et donnée, reçue de Dieu et donnée aux autres. Je ne vais pas prolonger davantage, mais je vous suggère, quand vous rentrerez à la maison, j'avais prévu de développer un peu, mais je pense que je serai trop long. Alors, je vais vous laisser simplement la piste et vous suggère de la parcourir vous-même. C'est de lire la suite du texte de Jean 7. Après que nous ayons lu ce texte en disant que celui qui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sein couleront des sources d'eau vive. Tout de suite après, nous avons, à la fin de ce chapitre 7, le récit des réactions de la foule à cette parole de Jésus. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient, vraiment, voici le prophète. D'autres disaient, le Christ, c'est lui. Mais d'autres encore disaient, le Christ pourrait-il venir de la Galilée? Et toute la fin du texte consiste pour certains à se demander, non pas le sens de ce que Jésus a dit, mais le fait de savoir si c'est possible que vienne de la Galilée un prophète. Par rapport à cette parole essentielle, proclamée solennellement par Jésus le dernier jour de la fête, il y a encore des gens autour de lui qui se demandent s'il peut venir quelque chose de bon de la Galilée. Il y avait du côté de la Judée, du côté de Jérusalem, la capitale, des gens qui avaient un profond mépris pour la Galilée, pour la campagne, et qui, au lieu d'écouter une parole essentielle, se demandaient si c'était possible que vienne de la Galilée un prophète. Voilà. Je ne développe pas davantage. Mais je voulais rapporter la dernière parole qui est au cœur de ce récit, toujours dans cette fin du texte. Les chefs du peuple avaient envoyé des huissiers chercher Jésus. Et puis les huissiers sont revenus sans avoir attrapé Jésus. Et ces hommes, les chefs du peuple, ces gens qui méprisaient la Galilée et les Galiléens, leur ont dit « Pourquoi vous ne l'avez pas amené ?» Et les huissiers ont répondu « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen.